en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie, dont l'une des missions essentielles est de vous présenter les académiciens et de leur donner la parole. Aujourd'hui, dans cette émission en habit vert, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Renaud Denoy de Saint-Marc, élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 29 novembre 2004, au fauteuil laissé vacant par le décès de l'ambassadeur Jacques Leprêtre. Monsieur Denoy de Saint-Marc, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Votre carrière est indissociable du Conseil d'État. Vous êtes entré en 1964. Vous avez occupé les diverses fonctions de tout conseiller d'État, maître de requête, commissaire de gouvernement près l'Assemblée du contentieux. Et vous avez été aussi directeur adjoint du cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et à l'époque, c'était Alain Perfitte. J'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur Alain Perfitte qui fut élu à l'Académie française en 1977.
Effectivement, j'ai été le directeur adjoint du cabinet d'Alain Perfitte en 1977 ou 78, si la mémoire est fidèle. Il y a toujours un membre du Conseil d'État auprès du garde des Sceaux, et le Conseil d'État, le vice-président du Conseil d'État de l'époque, m'a demandé d'être auprès d'Alain Perfitte, ce représentant du Conseil d'État. J'ai donc été effectivement le directeur adjoint de son cabinet. Je ne connaissais pas Alain Perfitte personnellement, encore que sa réputation, bien entendu, m'était parfaitement connue. Et j'ai donc travaillé avec lui jusqu'en 1981, date à laquelle il a été obligé de cesser ses fonctions en raison des événements politiques. Et j'ai découvert cet homme à l'intelligence très pénétrante et à la grande curiosité intellectuelle. C'était un grand analyste. Il aimait connaître les institutions par le détail, et il aimait les décortiquer en quelque sorte comme l'horloger le fait avec les rouages d'une montre. Et sa grande curiosité d'esprit le rendait très exigeant à l'égard de ses collaborateurs, mais encore une fois, j'ai gardé un excellent souvenir de ses relations avec Alain Perfitte, avec lequel d'ailleurs j'ai entretenu des rapports jusqu'à sa disparition.
Et au cours de votre carrière, vous avez surtout occupé deux éminentes fonctions, et c'est de ces fonctions que nous allons parler maintenant. D'abord celle de secrétaire général du gouvernement, et nous allons y venir, puis celle de vice-président du Conseil d'État. Donc au cours de votre carrière, vous avez occupé deux éminentes fonctions, celle de secrétaire général du gouvernement, et nous allons y venir, et celle de vice-président du Conseil d'État. Et pour évoquer ces deux fonctions, je vais laisser la parole à Myriam Lemaire, qui est journaliste et qui est rédactrice en chef, notamment de la lettre de l'association Communication Publique. Elle va vous poser quelques questions.
Monsieur Denoy de Saint-Marc, bonjour.
Bonjour madame.
Je voulais vous questionner tout d'abord sur votre vocation initiale. Ancien élève de l'ENA dans la promotion Blaise Pascal, vous avez choisi le Conseil d'État où vous avez été nommé auditeur en 1964. Pourquoi ce choix ?
Ce n'est pas un choix. Je n'ai fait l'ENA que pour entrer au Conseil d'État. Ma réponse est tout à fait vaniteuse, ou elle traduit, comment dirais-je, une grande naïveté, une grande inconscience de la part d'un étudiant. Parce que les places étaient chères au Conseil d'État. Nous sommes sortis, je crois, 4 anciens élèves de l'ENA de cette promotion au Conseil d'État. Il y avait 4 places, mais j'ai eu la chance d'avoir l'une de ces places. Je ne me suis donc jamais posé la question de savoir si j'irais au Conseil d'État, à l'inspection des finances, à la Cour des comptes, dans le corps préfectoral, dans le corps diplomatique ou à l'administration civile du ministère de l'Agriculture. J'ai fait l'ENA pour aller au Conseil d'État. J'ai eu la chance de pouvoir entrer au Conseil d'État. Point.
Bien, c'est donc une vocation naturelle. Le Conseil d'État apparaît aujourd'hui comme une institution aussi prestigieuse que mystérieuse. Pour nos auditeurs et notamment pour tous ceux qui nous écoutent à l'étranger, pourriez-vous nous rappeler le rôle et les missions du Conseil ?
Alors, le Conseil d'État a effectivement un rôle qui peut paraître surprenant aujourd'hui, puisqu'il est à la fois le conseiller juridique du gouvernement et fondé dans ce rôle par notre Constitution, est le juge suprême de la juridiction administrative, c'est-à-dire le juge suprême des litiges qui peuvent opposer les particuliers aux autorités publiques et par conséquent au gouvernement lui-même. Alors cette double fonction peut paraître étonnante, encore que d'autres pays aient suivi l'exemple français, comme la Belgique, les Pays-Bas, la Colombie, l'Égypte, le Liban, etc. Cela s'explique pour des raisons historiques. C'est depuis Philippe le Bel que le Conseil d'État exerce ses deux fonctions. D'abord, celle de conseiller du souverain dans l'exercice de son pouvoir normatif, dans l'exercice du pouvoir du souverain de faire les lois, et également dans l'exercice par le souverain de son pouvoir juridictionnel, car sous l'Ancien Régime, le roi avait le pouvoir de rendre la justice dans des litiges qui opposaient la couronne aux particuliers. Le sacre lui donnait ce pouvoir en lui remettant la main de justice, l'évêque qui sacrait le roi lui remettait ce pouvoir juridictionnel. Et le roi l'a exercé longtemps, mais effectivement avec de plus en plus de distance, c'est-à-dire en s'en remettant le plus souvent aux gens qui lui préparaient sa décision. Et on est passé ainsi, petit à petit, d'un système de justice rendu par le souverain à une justice rendue par un organe indépendant du souverain. Et c'est ainsi que le Conseil d'État est devenu progressivement à travers l'histoire le juge souverain en matière administrative.
Le Conseil d'État est une institution, mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui le composent. Certains sont célèbres, d'autres anonymes. Quelles sont les personnalités rencontrées dans cette haute assemblée qui vous ont personnellement le plus marqué ?
Je n'ai que l'embarras du choix. Je voudrais citer à la fois le nom de personnes qui sont totalement inconnues du grand public et d'autres noms qui sont connus au moins d'un public averti. Si je cite le nom de Raymond Audan, qui a été président de la section du contentieux pendant de longues années, en tout cas pendant toute une période où j'exerçais moi-même des fonctions au sein du Conseil d'État, je sais que peu de gens le connaissent. Or, le président Audan a été d'abord un grand juriste, un grand président du contentieux et une personnalité extrêmement attachante par son comportement et sa déontologie. Mais on peut citer également des noms plus connus comme celui de Christian Chavanon, qui a été mon maître de conférence à Sciences Po, qui a été vice-président du Conseil d'État, celui de Pierre Larocque, qui est le père du système français de sécurité sociale, à la personnalité extrêmement affirmée, à l'égard duquel j'avais beaucoup d'attachement, ou celui de Marsolon, mon prédécesseur au Conseil d'État, que j'ai très bien connu.
Et qui vous a remis votre épée d'académicien,
mon épée d'académicien. Vous avez
une épée de famille, n'est-ce pas ? Une épée que vous teniez de votre grand-père.
Une épée que je tenais de mon arrière-grand-père. Et vous êtes parti de la garde royale à la fin du Premier Empire. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout à fait bonapartiste.
Si nous revenons aux différentes missions du Conseil d'État et notamment à la mission de Conseil du gouvernement, le Conseil d'État passe au peigne fin à la fois les projets de loi et les projets de décret dont le nombre augmente sans cesse. Comment le Conseil d'État peut-il contribuer à endiguer cette inflation législative qu'il a récemment dénoncée ?
Alors, il est vrai que nous dénonçons depuis longtemps ce que nous appelons l'inflation législative. Et nous avons été, je crois, le premier à le faire, mais ensuite, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel ont joint leur voix à la nôtre. Cela dit, ce n'est pas très facile pour le Conseil d'État de lutter contre cette tendance. Il peut effectivement, à l'occasion de l'examen d'un projet de loi, indiquer au gouvernement dans une note que tel ou tel aspect de la réforme qu'il envisage ne sont pas nécessaires et que le droit en vigueur permet de résoudre suffisamment les problèmes auxquels il se croit confronté. Mais en dehors du discours public, en dehors des observations que le Conseil d'État peut faire dans son rapport annuel qui est rendu public, il lui serait impossible de refuser d'examiner un projet de loi.
N'êtes-vous pas le père de l'expression « les lois bavardes » ?
Les lois bavardes, je crois avoir été le premier à utiliser cette expression. Le président de l'Assemblée nationale de l'époque, le pauvre homme est mort, donc je n'en dirai pas de mal, il s'agit de Raymond Forny, avait cru devoir m'envoyer une volée de bois vert par interview interposée. Mais je crois qu'il se trompait lourdement et je maintiens, et j'ai maintenu et je maintiendrai toujours l'expression de loi bavarde, luttons contre les lois bavardes.
Concernant l'activité contentieuse du Conseil d'État, j'aimerais vous demander quel est le rôle du commissaire du gouvernement, une fonction que vous avez assurée. Quel est donc son rôle dans le déroulement de la procédure contentieuse ?
Le commissaire du gouvernement, il faut toujours partir de l'histoire pour comprendre les institutions. Le commissaire du gouvernement a été créé, si ma mémoire est fidèle, sous la monarchie de Juillet. Cette fonction n'existait pas. Et l'intention du gouvernement à l'époque, c'était bien de créer un commissaire du gouvernement. Les mots avaient leur sens. C'était un parquet auprès du Conseil d'État, un représentant du pouvoir, un représentant de l'exécutif. Mais la réforme, heureusement, n'a pas été complète. C'est-à-dire qu'on a créé des emplois de commissaire du gouvernement auprès du Conseil d'État, mais on ne les a pas hiérarchisés. On n'a pas nommé un chef de ce parquet. Et par conséquent, chaque commissaire du gouvernement a pris l'habitude, dès le début, de prendre la parole pour exposer le point de vue qu'il pensait être le meilleur en toute liberté. Et c'est ainsi que le commissaire du gouvernement, trahissant en quelque sorte l'appellation que le pouvoir leur avait donnée, est devenu une sorte de contre-rapporteur public, c'est-à-dire quelqu'un qui donne en public son point de vue personnel sur chacune des affaires qu'il y a lieu de juger. Cette fonction éclaire le juge, éclaire les avocats, éclaire ce que nous appelons la doctrine, c'est-à-dire les professeurs de droit qui ont bien entendu accès à ces propos puisqu'ils sont tenus en public et qu'ils peuvent, et ce qui est assez souvent le cas, ils peuvent faire l'objet de publications. Donc l'appellation de commissaire de gouvernement, à laquelle je suis personnellement attaché pour des raisons historiques, pour des raisons de tradition, ne correspond pas à la réalité et de très loin.
Avant d'entamer la fonction de secrétaire général du gouvernement, que vous avez également assumé, monsieur de Noisy-Saint-Marc, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant.
Canal Academy vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission. Elle est en libre écoute sur Canal Academy.
Retour dans notre studio avec Renaud Denois de Saint-Marc, donc de l'Académie des sciences morales et politiques, pour évoquer cette autre fonction moins connue, je crois, du grand public, le secrétariat général du gouvernement. Myriam Lemaire, vous avez préparé quelques questions.
Oui, et ayant été nommé en 1985 conseiller d'État, vous avez dirigé le secrétariat général du gouvernement de 1986 à 1995, je crois. C'est une institution qui, depuis sa création en 1936, paraît avoir toujours été dirigée par un membre du Conseil d'État. Je voulais vous demander pourquoi. Et je voulais aussi vous demander si vous pouviez rappeler à nos auditeurs les missions du secrétariat général du gouvernement, un service rattaché au Premier ministre, mais peu connu du grand public, bien que son rôle soit essentiel.
Effectivement, j'ai été secrétaire général du gouvernement de 1986 à 1995. 1986, c'est le changement de majorité et l'arrivée de Jacques Chirac à Matignon pour la première cohabitation. Et 1995, c'est simplement le départ à la retraite de Marceau Long et par conséquent, ma nomination comme vice-président du Conseil d'État par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, sur la proposition du Premier ministre Édouard Balladur. Le secrétaire général du gouvernement a toujours été, vous avez raison de le dire, un membre du Conseil d'État, parce que la nature des fonctions, sur lesquelles je vais revenir dans un instant, fait que ce sont les membres du Conseil d'État qui sont le mieux à même de les exercer. Il s'agit d'une fonction d'administration générale à forte teneur juridique. Le secrétaire général du gouvernement, c'est d'abord, comment dirais-je, celui qui fait vivre le Premier ministre et ses services. C'est la fonction la plus humble et la moins importante pour le secrétaire général du gouvernement lui-même. Enfin, c'est le secrétaire général du gouvernement qui gère les immeubles et le personnel affectés au Premier ministre et affectés aux secrétaires d'État qui lui sont directement rattachés.
Ça fait combien de personnes environ ?
Le secrétaire général du gouvernement aujourd'hui, ça dépend. Dans sa fonction la plus restreinte et la plus importante, c'est moins de 100 personnes. Dans sa fonction la plus étendue, si vous y englobez la direction de la fonction publique, la direction de la documentation française, le journal officiel, c'est quand même plusieurs milliers de personnes.
Même pas rien.
Le deuxième rôle du secrétaire général du gouvernement, c'est d'être le conseiller juridique et surtout constitutionnel du Premier ministre et de son cabinet. Et enfin, le troisième rôle, peut-être le plus important, c'est d'assurer, toujours sur le plan juridique et administratif, mais pas sur le plan politique, les relations entre le Premier ministre, ses ministres et les autres institutions constitutionnelles, le président de la République, le Parlement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel.
Une fonction donc capitale. À quoi tient, selon vous, la remarquable stabilité du secrétaire général du gouvernement, puisqu'il me semble que depuis 1947, nous avons connu 9 secrétaires généraux du gouvernement face à l'instabilité des gouvernements, notamment sous la 4e République.
C'est peut-être l'instabilité des gouvernements qui explique la stabilité des secrétaires généraux. Alors, à la vérité, c'est une fonction qui ne peut s'exercer avec maîtrise que dans la durée. Il faut un certain temps d'adaptation à ces fonctions qui sont complexes et qui ont des aspects très divers. Et l'autorité qu'acquiert le secrétaire général du gouvernement tient à son expérience, tient à la durée dans l'exercice des fonctions. C'est pourquoi je crois qu'il est important que le secrétaire général du gouvernement exerce ses fonctions longuement. Moi, je les ai exercées un peu plus de 9 ans, mais ce n'est pas le record de France, n'est-ce pas ? Il y en a au moins 2 qui ont exercé leurs fonctions plus longtemps que moi. Je crois aussi que le secrétaire général du gouvernement doit se cantonner dans un rôle purement administratif, juridique de ses fonctions. Et par conséquent, ne jamais mettre les doigts dans l'opportunité politique. Je remarque, pour prendre mon exemple, qui est modeste, mais enfin c'est celui que je connais le mieux, je suis arrivé nommé par le président Chirac, à ce moment-là Premier ministre, qui avait voulu se séparer de mon prédécesseur, Jacques Fournier, mon collègue avec lequel j'entretiens d'excellents rapports, mais qui avait exercé auparavant les fonctions de secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et pour cette première cohabitation, je comprends assez que le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, ait voulu changer de secrétaire général du gouvernement. Bien, j'ai donc été nommé par le président de la République en Conseil des ministres sur la proposition de Jacques Chirac, secrétaire général du gouvernement. Mais Michel Rocard, en 88, à l'occasion d'un nouveau changement politique, m'a conservé, de même que Qu'Edith Cresson, Pierre Bérégovoy, puis ensuite Édouard Balladur. J'ai donc connu 5 premiers ministres et 3 alternances, n'est-ce pas ? Et je me félicite que les premiers ministres, en changeant, n'aient pas cru devoir changer de secrétaire général du gouvernement. Je crois avoir exercé mes fonctions de la façon la plus objective que j'ai pu, en arrivant, je crois, à faire l'écran entre les convictions politiques qui peuvent être les miennes, mais qui ne regardent que moi, et l'exercice de mes fonctions. Je crois avoir été loyal avec les 5 premiers ministres que j'ai servis.
Quelle a été l'influence de ces 5 premiers ministres, dont les personnalités étaient très diverses, sur le fonctionnement du secrétaire général du gouvernement et sur le travail gouvernemental? Et est-ce que les situations de cohabitation que vous avez connues ont modifié l'organisation et le fonctionnement du SGG? Au fond, quels souvenirs personnels vous gardez de cette fonction et des 5 premiers ministres que vous avez croisés?
Il y a beaucoup de questions dans votre phrase.
Mais
le changement de premier ministre peut avoir des conséquences sur les relations entre le secrétaire général du gouvernement et le Premier ministre et son environnement immédiat, c'est-à-dire son directeur et ses directeurs adjoints de cabinet. Le changement de Premier ministre n'affecte pas le secrétariat général du gouvernement dans sa profondeur. Les chargés de mission auprès du secrétaire général du gouvernement ne ressentent pas le changement de Premier ministre. Bon, ils peuvent aussi avoir leurs opinions, mais ça ne regarde qu'eux. Les premiers ministres peuvent avoir une conception différente des relations qu'ils entretiennent avec le secrétaire général du gouvernement. Jacques Chirac, par exemple, n'aime pas beaucoup qu'on l'ennuie avec les questions juridiques. Et je n'ai jamais fait une note demandant au Premier ministre ses directives pour une question juridique. Lorsque j'avais un problème délicat, je l'ai réglé avec son directeur de cabinet, Maurice Ulrich. Et comme je savais que Maurice Ulrich avait toute la confiance du Premier ministre, je considérais que j'en avais parlé au Premier ministre et qu'il était d'accord. Michel Rocard s'y intéressait davantage et en tout cas aimait bien les relations orales avec le secrétaire général du gouvernement. J'ai donc eu l'occasion assez fréquemment de discuter dans son bureau avec le Premier ministre. Madame Cresson n'a jamais très bien su si j'étais le régisseur de Matignon ou un super-ministre. Elle a toujours hésité entre ces deux conceptions de mon rôle, les deux conceptions étant également erronées. Avec Pierre Bérégovoy, j'ai eu d'excellentes relations, mais celui avec lequel j'ai eu relations les plus étroites, c'est très certainement Édouard Balladur.
Je vous remercie. Je souhaiterais aborder donc des questions sur une autre institution où vous avez été nommé depuis février 2007, Conseil constitutionnel. La rue Montpensier, donc le Conseil est chargé, comme chacun le sait, de vérifier la constitutionnalité des lois. Pensez-vous que la répartition des rôles entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État soit satisfaisante et y a-t-il une collaboration entre ces deux institutions ?
Le partage des rôles est très clair. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, le Conseil d'État vit avec la Constitution. Nous vivons avec la Constitution au Conseil d'État parce que dans l'examen des projets de décret ou des projets de loi, nous devons pouvoir donner au gouvernement des avis qui soient conformes au droit constitutionnel en vigueur. Et le droit constitutionnel en vigueur, c'est la Constitution elle-même, éclairée le cas échéant par des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Donc, contrairement à ce que certaines personnes pensaient, il n'est pas du tout interdit au Conseil d'État de pénétrer dans le domaine du droit constitutionnel, ça lui est au contraire hautement recommandé. De son côté, le Conseil constitutionnel examine, le cas échéant, les lois lorsqu'elles ont été votées et avant leur promulgation, lorsque le Conseil constitutionnel s'en trouve saisi. Et le Conseil constitutionnel peut essayer de savoir ce que le Conseil d'État a pu dire le moment venu lorsqu'il a été saisi de ce projet de loi. Est-ce que le Conseil d'État a fait des objections de nature constitutionnelle au gouvernement ? Et c'est tout à fait normal que le Conseil constitutionnel se fasse communiquer l'avis qu'avait émis le Conseil d'État. Et de son côté, comme je l'ai dit il y a quelques instants, le Conseil d'État, lorsqu'il examine des projets de loi ou des projets de décret, est lui-même attentif aux décisions que le Conseil constitutionnel a pu rendre. Et les deux maisons se connaissent, n'est-ce pas ? Le secrétaire général du Conseil constitutionnel a toujours été, sauf dans une hypothèse, un membre du Conseil d'État. Il a des relations avec la maison d'à côté et il n'est pas interdit au vice-président du Conseil d'État et au président du Conseil constitutionnel de se téléphoner s'ils ont des hésitations sur tel ou tel point. Pour avoir exercé les fonctions de vice-président du Conseil d'État avec plusieurs présidents du Conseil constitutionnel successifs, je puis témoigner qu'il nous est arrivé de nous téléphoner et même de déjeuner ensemble, ce qui n'est pas un péché.
En tant que vice-président du Conseil d'État, vous avez été, je crois, le premier fonctionnaire de France.
Oui, enfin, c'est l'ordre protocolaire qui veut ça, c'est pas lié à ma personne.
Quelle est votre vision du rôle de la fonction publique en France aujourd'hui et pensez-vous que ce rôle doit évoluer dans les temps qui viennent ?
D'abord, je me bornerai à la fonction publique de l'État. On peut se poser la question de savoir si la totalité des agents publics doit être couverte par le statut de la fonction publique. Est-ce qu'il ne serait pas possible de distinguer entre les fonctions pourrait dire accessoires, les fonctions banales, les fonctions qui peuvent être exercées par n'importe quelle personne et qui ne sont pas exercées de façon différente selon qu'on est dans une administration de l'État ou selon qu'on est dans une banque, ou dans une compagnie d'assurance ou dans tel ou tel service. Et au contraire, les fonctions qui supposent un lien plus fort avec l'exercice du pouvoir d'État, avec des fonctions plus régaliennes. C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Il est certain que l'ensemble des agents publics aujourd'hui est très attaché au maintien d'une situation statutaire qu'il considère comme plus protectrice de ses droits et notamment plus protectrice de la sécurité de l'emploi. Le statut général de la fonction publique a certainement conduit à un certain nombre de rigidités. Je pense qu'une voie moyenne pourrait être le maintien du statut général de la fonction publique, mais une réduction du nombre des corps de fonctionnaires et une gestion fondée davantage sur l'emploi et non pas sur l'appartenance au corps. Ce que je dis est un peu technique et supposerait des développements beaucoup plus longs, mais qui seraient un peu fastidieux. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait introduire un peu plus de souplesse dans la gestion de la fonction publique tout en lui conservant un certain nombre de garanties auxquelles les fonctionnaires sont historiquement très attachés.
J'en viens à une dernière question. Vous êtes académicien depuis 2005, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et vous avez prononcé à l'Institut de France un discours, Le courage de l'homme d'État. Discours dans lequel vous affirmez notamment qu'avoir le courage de réhabiliter le courage dans notre société est l'ambition dont l'homme d'État d'aujourd'hui devrait se sentir investi.
Parce que vous trouvez que ce n'est pas très gentil pour les hommes d'État d'avoir dit ça.
Est-ce que, tout d'abord, pour vous, le courage est la principale vertu de l'homme d'État ?
Je ne sais pas si c'est la principale, mais c'est certainement une vertu cardinale. Et on peut être assez sévère à l'égard de la classe des hommes politiques à cet égard, où le courage n'est pas toujours la vertu qui est la plus souvent mise en avant, n'est-ce pas ? Il y a tout un discours qui essaye d'aller dans un sens un peu démagogique, parler dans le sens de ce que les Français ont envie d'entendre. Et avoir le courage de dire une vérité pas toujours agréable et souvent déplaisante. Sinon, c'est pas courageux. C'est une vertu qui se perd un peu, oui.
Mais M. Raymond Barre, qui avait le courage de dire la vérité économique, oui, par exemple, n'était pas justement toujours perçu par les Français,
oui,
à la hauteur de son courage.
Il y a quand même peut-être une façon d'être courageux. Et Raymond Barre, Dieu ait son âme, j'aimais beaucoup Raymond Barre, était quelquefois un peu provocateur dans l'exercice de son rôle et dans son verbe.
Voilà, c'était pour vous faire parler de l'un de vos confrères aussi de l'Académie des sciences morales et politiques. Myriam Lemaire, avez-vous une dernière question ?
Comment réhabiliter aujourd'hui cette vertu ? Quelques pistes ?
Il n'y a pas de technique. S'il y avait une technique, ce serait trop facile. Non, c'est du ressort moral. Je pense que c'est une pente un peu difficile à remonter compte tenu de la démocratie d'opinion que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le journal télévisé tous les soirs ne va pas forcément dans le sens du courage.
Pour terminer, je voudrais rappeler, M. Denoy de Saint-Marc, que le texte de ce discours, Le courage et l'homme d'État, est disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques.
Je m'en félicite.
ASMP.fr, voilà, nous l'avons imprimé. Je voudrais dire aussi que vous êtes l'auteur d'un « Que sais-je ? » sur l'État. Et vous êtes également l'auteur d'un rapport au Premier ministre sur le service public. C'est un rapport qui est disponible à la documentation française. Et enfin, que l'on peut vous retrouver et en photo dans le Gallimard Découverte consacré au Conseil d'État, un Gallimard Découverte publié à l'occasion du bicentenaire du Conseil d'État est rédigé par Éric Arnoul, lequel n'est autre que Éric Orsenna de l'Académie française, et l'historien François Monnier. Merci, Monsieur Denoy de Saint-Marc, de nous avoir éclairés sur toutes ces questions importantes du Conseil d'État et des fonctions que vous avez assumées. J'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir.
Mais très volontiers, je vous remercie de m'avoir donné ainsi l'occasion de m'entretenir avec vous et, par l'intermédiaire des ondes, à tous ceux qui vous écoutent.
Merci infiniment. Merci.